Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. C'est toujours une joie d'animer ces plongées dans l'histoire et je prends un court instant pour me présenter en tant qu'hôte de cette émission pour planter le décor.
Et bonjour, c'est un réel plaisir de me présenter également pour apporter mon analyse d'expert sur les documents inédits qu'on va décortiquer aujourd'hui.
C'est parti alors. Il y a un pouvoir vraiment fascinant quand on y pense, dans le simple fait de tenir un instant figé entre ses mains. Cette sensation un peu étrange quand on tombe sur une vieille photographie au fond d'un tiroir ou dans un vide-grenier.
Ah oui, ce fameux petit rectangle de carton.
Exactement. On parle d'un objet de quelques centimètres à peine et pourtant ce bout de papier semble contenir absolument toute la mémoire d'une époque disparue. On y devine presque les bruits de la rue pavée, l'odeur du marché aux bestiaux ou même les espoirs de ces gens qui fixent l'objectif figé dans leurs habits du dimanche.
C'est pas qu'une simple image nostalgique en fait. La photographie imprimée, plus particulièrement la carte postale ancienne, ça dépasse largement ce cadre. C'est un artefact complexe.
Un véritable objet sociologique.
Tout à fait. C'est un objet qui a voyagé, qui a été méticuleusement choisi sur un présentoir, acheté, annoté avec soin, puis confié au système postal. Donc elle porte une double histoire. D'un côté, il y a l'instant factuel capturé par le photographe, et de l'autre, il y a ce lien social intime, la correspondance entre l'expéditeur et le destinataire. C'est une fenêtre grande ouverte sur les mentalités d'une société.
Et notre exploration d'aujourd'hui va justement utiliser cette fenêtre pour remonter le temps. Le document source centre de notre analyse, c'est une véritable pépite pour l'histoire locale et sociale. Il s'agit du bulletin numéro 35.
Publié en septembre 2007, si je ne me trompe pas.
C'est ça, un numéro très spécial conçu pour célébrer le 10e anniversaire du Carto Club Aveyronnais. Donc ça couvre la décennie de 97 à 2007. L'objectif, la mission de notre plongée aujourd'hui, c'est de décrypter l'histoire économique, sociale et intime de l'Aveyron, tout en comprenant pourquoi cette fameuse carte postale est un outil sociologique d'une puissance assez dingue.
Et ce recueil illustre parfaitement comment un groupe de passionnés peut accomplir un travail de préservation qui rivalise parfois avec des archives institutionnelles. Mais bon, pour qu'un tel projet tienne la route, il n'y a pas de secret, il faut une organisation en béton.
Ah ça, oui. Et cette architecture, elle porte la marque d'un homme en particulier. Avant même de regarder les images, il faut souligner ce travail titanesque. Le document désigne explicitement Guy Mazars comme le rédacteur en chef et le concepteur de la maquette de ce bulletin.
Un rôle absolument crucial.
Totalement. C'est grâce à son œil rigoureux et à sa passion pour la mise en page que tout ce recueil prend vie. D'ailleurs, le document glisse une petite remarque pleine d'humour de sa part. Il justifie le foisonnement des notes de bas de page en disant que, je cite, « les bulletins ont horreur du vide ».
Belle philosophie d'éditeur, oui. Surtout que la contrainte choisie pour cet anniversaire est vraiment audacieuse. Au lieu de faire une encyclopédie chronologique un peu lourde ou un catalogue exhaustif, ils ont parié sur la subjectivité.
Le fameux concept du 10x10.
Voilà. Pour marquer le coup des 10 ans, le club a demandé à 10 invités, tous des membres éminents, de présenter leurs 10 cartes postales anciennes préférées.
Et pour structurer notre propre analyse, on va s'imposer une règle très stricte aujourd'hui. Chaque auteur sera systématiquement cité avant qu'on commence à explorer sa sélection et les cartes qu'il illustre.
Analytiquement parlant, cette approche par la sélection individuelle est passionnante. Face à des milliers de clichés sur l'Aveyron, l'acte de choisir révèle beaucoup. Le tamisage montre la personnalité du collectionneur, son chauvinisme local pour son propre village, sa recherche esthétique. La curation, c'est un acte historique en soi.
Bon, commençons cette galerie avec notre premier auteur, Gilbert Régoir. Il était d'ailleurs président du club au moment de la publication. Sa sélection se concentre sur des scènes de genre, urbaines ou rurales, qui débordent de vie. Il cherche vraiment l'humain au centre de l'action.
Ouais, il évite le piège de la carte purement architecturale, pas d'église vide avec lui.
Pas du tout. Sa première carte illustrée s'intitule « Le cireur de chaussures ». Ça se passe à Rodez, sur le boulevard Gambetta. Visuellement, le contraste social est d'une intensité folle. On a un client endimanché, bien droit sur le trottoir, fier devant l'objectif, la chaussure posée sur un trépied en bois, et à ses pieds, littéralement dans le caniveau, le cireur est accroupi, l'air surpris, en plein effort.
C'est une vraie leçon de sociologie visuelle. En une fraction de seconde, on voit les hiérarchies de la belle époque. L'espace public est partagé, ils respirent le même air, mais la verticalité de la photo traduit l'abîme entre leurs conditions. Le client domine, le travailleur est au ras du sol.
La structure de classe immortalisée. Sa carte suivante nous plonge dans un autre labeur, le maréchal Ferrand, toujours à rôder. C'est une scène bouillonnante, le forgeron travaille sur le sabot d'un cheval, son assistance active, et un enfant pose fièrement avec un fer neuf à la main, et sur la droite, un muletier attend avec son mulet.
L'omniprésence de la force animale, tout simplement. Avant le moteur à explosion, la forge, c'était le point névralgique de l'économie. Sans ce maréchal Ferrand, aucune marchandise ne circule. C'est le garage automobile de l'époque et un lieu de sociabilité masculine.
Gilbert Régour clôture ça en nous emmenant à Nocelles. Devant l'église, jour de marché à la volaille. La rue est une mer de longues robes noires paysannes. Et détail curieux, on voit des pancartes avec le mot « limite ».
Ah, les pancartes limites. Ça prouve que même dans ces marchés qui ont l'air chaotiques, l'administration imposait un ordre très strict. Et le noir des robes, ça rappelle la rudesse paysanne et l'omniprésence du deuil à cette époque.
On change de décor avec le deuxième auteur, Gérard Naudan. Lui, il opère un vrai virage vers la ruralité profonde, avec une touche de nostalgie. Il présente d'abord Limayrac, au lieu dit le haut du bourg, une scène intergénérationnelle autour d'un immense attelage bovin. Mais sa deuxième carte, c'est un vrai choc historique.
Ah oui, la fameuse carte de Cabrespine, une pièce rarissime.
Sur l'image, on voit des villageois réparer un mur de soutènement rocailleux au bord d'un chemin. Et Gérard Naudan explique que c'est ce qu'on appelait la corvée ou les prestations.
C'est inestimable pour l'histoire du droit fiscal. La corvée, c'est l'héritage direct du système féodal. On payait ses impôts locaux en nature, avec la sueur de son front, parce que les pièces de monnaie étaient rares. Les habitants devaient fournir des jours de travail gratuits à la commune pour entretenir la voirie. Voir ça capturé au XXe siècle, ça montre que la carte postale est un témoin oculaire de pratiques juridiques en voie de disparition.
C'est fou de voir l'impôt en nature sur une photo. Notre troisième auteur nous ramène à l'architecture du bulletin, puisqu'il s'agit de Guy Mazars, lui-même, notre rédacteur en chef et concepteur de la maquette. Sa sélection met en lumière les petits métiers et les événements exceptionnels. Et il s'appuie beaucoup sur des cartes photos.
Il faut préciser ce qu'est une carte photo. Ce n'est pas une carte imprimée à des milliers d'exemplaires à Paris. C'est un tirage photographique original, sur papier sensible, avec des lignes d'adresse imprimées au dos. Souvent tirées à une dizaine d'exemplaires par des photographes ambulants. Des pièces quasi uniques.
Guy Mazars utilise ces raretés pour montrer la visite de l'évêque Chaillol à Saint-Cyprien-sur-Dourdou en 1926. Le village avait construit un arc de triomphe monumental en verdure. Mais l'image la plus touchante de sa sélection, c'est un groupe de charrons. Les fabricants de charrettes, toujours à Saint-Cyprien. Dans le texte, il révèle un détail bouleversant. Parmi les ouvriers, il identifie son propre père, Fernand, et son jeune oncle Raymond.
L'émotion archivistique à l'état pur. Le document historique à portée générale croise la généalogie intime de l'auteur. La distance clinique s'efface. Et la carte redevient un fragment d'histoire familiale, une preuve d'existence. C'est pour ça qu'il collectionne au fond.
Complètement. Cette idée de transmission nous amène au transport et aux migrations. Jean-Claude Souiri, quatrième auteur et président d'honneur du club, met en avant l'évolution des échanges. Il montre un facteur de Fayet livrant le courrier à vélo dans les ruelles de Sylvanèse. Mais sa carte la plus marquante, c'est une flotte de triporteurs des marchands de café Caïfa, alignés à Rodez avec les vendeurs en uniforme.
Les succursales Caïfa, c'est les prémices de la grande distribution, le capitalisme moderne qui s'infiltre en province. Ces triporteurs livraient du café et des épices à domicile. C'est la mondialisation commerciale qui vient percuter le petit commerce local.
Ce bouleversement des transports, c'est aussi le sujet de notre cinquième auteur, Alain Bouza. Il s'intéresse aux routes chaotiques de l'Aveyron et illustre l'arrivée spectaculaire des diligences. On voit des attelages massifs devant la maison Angeldard, au Moulin Neuf ou à l'hôtel Berthomieux à Trémouille. La poussière, les cochers affairés, les passagers épuisés.
Ça rappelle la pénibilité physique du voyage. Traverser l'Aveyron à cette époque, c'était pas une balade. C'était une expédition logistique soumise à la météo et au mauvais chemin.
Et malgré ça, les gens voyageaient. Ce qui nous mène au sixième auteur, Francis Falguière. Il propose une anomalie fascinante. Dans son bulletin aveyronnais, il inclut une carte de 1919 intitulée « Café de Paris », montrant une devanture en plein cœur de Paris.
Ça paraît paradoxal, mais c'est brillant pour illustrer un phénomène démographique majeur, la diaspora.
Exactement. L'auteur explique que le grand-père qui tient ce café sur l'image est un aveyronnais émigré. Et il raconte une anecdote savoureuse. Sur la photo, il y a une petite fille de 6 ans avec une trottinette neuve, Madeleine. Plus tard, marchant dans Paris, elle s'est étonnée d'entendre son père lui parler en patois local. Elle a répondu en occitan, surprise d'entendre la langue de son village sur les trottoirs parisiens.
C'est l'histoire des fameux Bougnats, ces immigrés auvergnats et avéronnais qui ont fui la rue des Économiques pour s'installer à Paris. Ils ont monopolisé le charbon, l'eau, puis les brasseries. Cette image prouve qu'en quittant leur terre, ils ont gardé leur culture et leur langue. La carte postale témoigne de l'exode rural.
Quitter la région, c'est aussi synonyme de ses traditions culinaires. Les 7e et 8e auteurs, Jacques Vernes et Gabriel Ponce, recentrent l'objectif sur l'Aubrac. Jacques Vernes s'attarde sur une scène d'une convivialité débordante. Des paysans rouergas, attablés en plein air sur la montagne, qui partagent une gigantesque platée d'aligots.
L'aligot, à la base, c'est pas un plat pour touristes. C'était la subsistance des buronniers, ces bergers isolés des mois sur le plateau. Le manger ensemble, en plein air, c'est un rituel social fort. Envoyer cette carte à une exilée à Paris, ça devait provoquer une de ses nostalgies.
J'imagine, ouais. Et en parlant d'envoi postal, Gabriel Ponce, notre 8e auteur, présente une vue d'Aubrac en 1901. L'image est belle, mais la pépite est au dos, dans la correspondance. L'expéditeur mentionne avec enthousiasme qu'il envoie par la poste 30 cartes illustrées d'un coup ce jour-là.
30 cartes d'un coup ! Ça détruit l'image d'une belle époque vivant au ralenti. La carte postale, c'était le réseau social de l'époque, l'équivalent d'un groupe WhatsApp. Avec plusieurs levées de courrier par jour, on s'envoyait des cartes juste pour dire « bien arrivé » ou pour se donner rendez-vous le soir même. Une vraie frénésie de communication instantanée.
Une boulimie d'archives qui nous amène à la dernière section de notre analyse. Le bulletin 35 prend aussi du recul sur le travail du club. Ils ont intégré le sommaire vertigineux des 34 bulletins précédents.
Et c'est là que le terme « outil sociologique » prend tout son sens. Ils ont bâti une encyclopédie visuelle de l'économie locale.
Tout y passe. Les étapes de fabrication du Roquefort, le suivi des grandes grèves des gantiers de Millau, des conflits très durs, ou encore le développement industriel, souvent tragique, du bassin houiller de Decazeville. Ce qui frappe, c'est la rigueur documentaire. Quand ils abordent la lutte des classes à Millau, ils le font à travers le prisme factuel de la carte. Sans militantisme, l'archive prime.
Cette neutralité exige une discipline intellectuelle forte. Ça donne au document toute sa force probatoire pour traverser le temps.
Et cette lucidité s'applique aussi au présent. Le club n'est pas bloqué au 19e siècle. Ils éditent des cartes modernes pour immortaliser des événements récents. En l'an 2000, une carte célèbre la victoire de Richard Cinct au Rallye Dakar.
Ils créent les objets de collection de demain, c'est très moderne.
Ils documentent même l'actualité brûlante. En 2001, une carte montre José Bové à la sortie du tribunal de Millau. Et là encore, c'est traité comme un pur instantané temporel, sans aucune prise de position politique de la part du club. En 2003, c'est le chef Michel Brasse. Et summum du quotidien, en 2004, ils éditent une carte pour immortaliser l'installation des tout premiers eurodateurs dans les rues de Rodez.
L'eurodateur, c'est génial. Ça a l'air banal, mais c'est la même démarche que pour le cireur de chaussures de Gambetta un siècle avant. Ça raconte la mutation de l'espace urbain, la gestion des voitures, le rapport au temps. L'art documentaire vivant.
Pour synthétiser ce bulletin d'anniversaire majestueusement architecturé par Guy Mazard, transforme des morceaux de carton en un grand livre d'histoire. Chaque auteur invité a offert un fragment d'éternité avéronnaise. En expliquant la corvée de Cabrespine, l'exode des Bougnats ou le travail des forgerons, ils savent ces vies de l'oubli.
La carte postale ancienne jette un pont entre les générations. Elle donne un visage à l'histoire économique et sociale de la survie rurale.
Et ça amène une réflexion finale fascinante sur notre propre époque. Aujourd'hui, nos téléphones contiennent des milliers de photos numériques, des milliards d'images générées chaque jour, englouties dans le cloud, éphémères, sans légende, sans date au dos, sans le nom des personnes.
La question, c'est de savoir ce qu'il restera à étudier pour les historiens dans 100 ans.
Exactement. Notre époque, si obsédée par l'image, saura-t-elle laisser des témoignages aussi durables et riches de sens que ce simple rectangle de carton posté de l'Aubrac en 1901 ? C'est une vraie question qu'on laisse en suspens pour prolonger la réflexion bien au-delà de cette écoute.